порозмовив.
Domnilor și domnilor, doresc să salut prezența la Ministerul Afacerilor Externe a Ministrului francez pentru Migrație și Identitate Națională, domnul Denis Besson, a ministrilor Vasile Blaga și Ioan Boti și a secretarului de stat pentru afaceri europene, domnul Pierre Bellu și a secretarului de stat Valentin Mocan. Am avut o zi de lucru intens. Suntem satisfăcuți de faptul că am reafirmat și principiile comune în care credem și în același timp am asumat, așa cum veți vedea în comunicatul comun de presă, un plan de acțiune care să ne ajute să rezolvăm gradual problema cu care ne confruntăm. Relația cu Franța este o relație privilegiată, pecetuită pentru un parteneriat strategic, exprimată pe toate palierele cooperării bilaterale printr-o serie întreagă de proiecte în derulare, care sunt în egală măsură importante pentru Franța și România. Am reafirmat faptul că prin tradițiile sale, prin afinitățile sale lingvistice și culturale cu Franța, țara noastră cel mai bun prieten al Republicii Franceze în această parte a Europei și suntem convinși că de ambele părți această mobilizare exprimată prin asumarea unui plan de acțiune concret va readuce relația bilaterală la tonusul ei obișnuit, menținând toate perspectivele deschise pentru dezvoltarea ulterioară a dialogului pe toate planurile dintre Paris și București. Cred că a sosit momentul să punem capăt polemicilor sterile, așa cum am recunoscut și de o parte și de cealaltă, să privim critic și autocritic rezultatele muncii noastre de până acum și să ne concentrăm pe proiecte concrete de reinserție socială, despre care fără îndoială vom putea vorbi și domnii miniștri prezenți aici vă vor putea oferi informații mai detaliate. Suntem în situația de a vă prezenta acest comunicat comun de presă, semnat de către trei miniștrii români și de către miniștrii francezi care au venit la București. O primă parte de afirmare limpede a principiilor în care credem, o a doua parte conține schița acestui plan de acțiune care până la sfârșitul acestui an va deveni complet operațional. Noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate foarte clar față de proprii cetățeni. Nu socotim că problema minorității rome în Europa este o problemă exclusiv românească pentru simplu fapt că romi trăiesc în majoritatea statelor europene și nu de astăzi sau de ieri, ci de multe secole. Suntem conștienți că acest grup este vulnerabil, că are de depășit niște probleme reale de inserție, că trebuie să revină copiii la școală, că trebuie ca adulții să poată exercita o meserie, să se poată forma sau forma continuu pentru a intra pe piața muncii. Suntem convinși că cele două țări, Franța și România, vor reuși să determine și Comisia Europeană pentru crearea unui mecanism formal de coordonare a politicilor la nivelul celor 27 în privința integrării sociale a romilor și, bineînțeles, suntem convinși că Franța, pe care o respectăm și o admirăm ca parte a drepturilor omului, va fi prima apărătoare a tuturor principiilor care ilustrează astăzi spiritul european, inclusiv libertatea de circulație. Trebuie să facem o deosebire între rețelele de infractori, pe care trebuie să le tratăm cu toată rigoarea legii, și situația fragilă în care se află aceste comunități pentru a reuși să progresăm integrarea lor reală. Ne-am exprimat rezervele față de felul în care fiecare dintre noi a procedat până acum. Aceste dialoguri prin intermediul cutiei de rezonanță, care este presa, nu duc la nimic concret și suntem hotărâți ca împreună să putem pune în aplicare în origine ale concetățenilor noștri care pleacă în Franța sau în alte țări, nu pentru a limita libertatea de circulație, ci pentru a asigura prezența lor legală în Franța sau în oricare alt stat membru, pentru că Directiva 38, de care am tot vorbit, asigură libertatea de circulație și dreptul de a deședere în oricare stat membru pentru 90 de zile, dar dacă peste 90 de zile nu ai serviciu, nu ai resurse să te întreții, nu ai nicio formă de participare la piața muncii, în contract de muncă, clar, este, bineînțeles, o limită dincolo de care legea fiecărui stat membru trebuie să acționeze ca atare. Eu mă opresc deocamdată aici, dar îmi exprim satisfacția că în urma acestui dialog direct, sincer și foarte prietenesc, am identificat și abordarea comună cea mai eficientă și am pus, sper, capăt acestei veri cam înfierbântate pentru a lăsa loc muncii aplicate pe proiecte concrete și din acest punct de vedere avem nevoie nu numai de mai multe fonduri europene și de mecanismul de coordonare pe care Comisia a trebuit să-l pună în operă, ci și de colaborarea ONG-urilor rome care vor putea fără îndoială să ne ajute, să ajute guvernul român în acest efort de ameliorare a modului de viață și a condițiilor de viață în care trăiesc cetățenii noștri. Vă mulțumesc și am să rog pe domnul ministru Éric Dechon să ne adreseze mesajul de aniversare. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Théodore. Mesdames et messieurs, une intervention liminaire volontairement courte, puisque le ministre des Affaires étrangères roumain vient de redonner les grandes lignes de ce sur quoi nous sommes convenus, et puis nous serons à votre disposition, Pierre Lelouch et moi-même, pour répondre aux questions qui pourraient s'adresser à la partie française. Je voudrais dire simplement d'abord celles et ceux qui s'attendaient à un match France-Roumanie aujourd'hui auront probablement été déçus. Il y aura bien un match France-Roumanie, et ce sera le 9 octobre, au Stade de France. Et bon, là, j'espère une meilleure chose pour une des deux équipes. Ça n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit des choses. Nous nous sommes parlé très franchement et très directement, comme il convient, entre amis, mais dans un état d'esprit constructif. Et cette journée a été extrêmement utile. Parce que nous sommes venus avec Pierre Lelouch pour trouver avec nos amis roumains des solutions concrètes à des difficultés qui nous sont communes et que nous devons voulons résoudre ensemble. C'est le travail que nous faisons nos collègues roumains, puis l'audience que nous a accordée le Premier ministre, Emil Boc, ont permis de manifester un esprit de compréhension mutuelle et de responsabilité partagée. Marquons en cela notre fidélité au partenariat stratégique qui unit nos deux pays. Nous sommes convenus ensemble, ça vient d'être rappelé, que les relations franco-roumaines méritaient mieux que les amalgames et la caricature. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères vient de résumer en disant il faut mettre fin aux polémiques stériles. Je souscris à ces propos, il faut mettre fin aux polémiques stériles. Nous avons rappelé notre attachement aux liens humains exceptionnels entre nos deux pays, et je voudrais souligner une chose qui n'est pas beaucoup dite. D'abord que les ressortissants roumains constituent la deuxième nationalité pour l'immigration professionnelle en France, avec plus de 4 000 nouveaux titres de séjour chaque année. Donc quand on parle d'immigration, il n'y a pas que les questions qui nous occupent aujourd'hui. L'immigration professionnelle des Roumains en France marche bien. Et deuxièmement, je veux rappeler que la France est d'autre part le premier pays d'accueil des étudiants roumains. C'est dire l'intensité de nos échanges. En même temps, nous avons évoqué les retours volontaires, pour la plupart d'entre eux, du mois d'août. Nous avons redit avec Pierre Lelouch que la France avait agi conformément au droit communautaire, conformément à la loi de la République française, conformément à nos principes républicains. Dans la déclaration conjointe qui vient d'être évoquée par le ministre et qui va vous être, qui vous est distribuée, nous constatons notre accord sur des principes essentiels. La liberté de circulation et de séjour, qui conforte les droits et les devoirs pour chaque ressortissant de l'Union européenne, sans aucune discrimination. Nous évoquons ensemble aussi la dignité humaine et l'ordre public, qui sont des exigences pour lesquelles il ne peut y avoir aucune faiblesse. Et nous redisons que chaque État membre de l'Union a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour l'intégration de ses ressortissants dans le respect de la liberté de circulation et de séjour, tel que régit par le droit européen. Parce que notre charte commune, c'est le droit communautaire, et notamment la directive de 2004. Alors, ça vient d'être évoqué rapidement, cet accord nous a conduit à prendre des décisions communes. D'abord, de mieux coopérer dans la lutte contre la délinquance, qui va être renforcée par l'envoi de 10 policiers roumains supplémentaires en France. Nous nous en réjouissons. Et je veux remercier à ce titre le ministre de l'Intérieur, ici présent, et par l'échange de magistrats de liaison. L'accord franco-roumain sur la prise en charge des mineurs isolés sera voté très vraisemblablement, définitivement par le Parlement français en octobre, et donc, une fois qu'il sera ratifié par la France, il pourra être mis en œuvre. En matière de réinsertion et d'intégration des citoyens roumains en situation de précarité, la France et la Roumanie coopéreront à la mise en œuvre de projets de développement économique et social. La Roumanie nous a dit qu'elle adoptera avant la fin de cette année, dans le cadre de sa stratégie nationale, un plan d'intégration de la population dite « Rome », ici entre guillemets. La France a proposé à appuyer la Roumanie en mettant à disposition son expertise et dans des questions si vous souhaitez, Pierre Lelouch pourra vous dire combien la France et la Roumanie agiront de concert auprès de l'Union européenne dans le but de soutenir l'engagement de la Commission européenne en faveur de l'inclusion sociale de ces populations et d'aider à obtenir les financements nécessaires. Voilà, mesdames et messieurs, je veux une nouvelle fois, avec Pierre Lelouch, me réjouir de l'état d'esprit qui a présidé à nos rencontres. Il n'y a pas eu de tabou, nous nous sommes tout dit, et en même temps, nous avons constaté de part et d'autre que nous étions très décidés à continuer à travailler ensemble, et très décidés à ce que l'amitié séculaire entre la Roumanie et la France ne soit pas entachée par un certain nombre de polémiques dont vous avez bien dit, Monsieur le Ministre, qu'elles étaient stériles et non fondées.
Merci. Cher Pierre.
Merci, Théodore. Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être à nouveau à Chicarès depuis ma nomination. C'est la troisième fois, c'est mon cinquième contact avec les autorités européennes. Je commence à être habitué et je suis très heureux de revoir Théodore Baconski et le nouveau collègue Valentin Roquette qui a été nommé en charge de l'intégration de la communauté rome. Même en France, j'ai dit à plusieurs reprises depuis. Moi aussi, je souhaitais que l'on fasse des chances de la scène à des actes. Je vois qu'il y a un longtemps, le problème posé par ce qu'on appelle les minorités roms en Europe est un problème extrêmement lourd. Ça concerne des millions de personnes. Bien sûr que toutes ces personnes ne sont pas de nationalité romaine. Mais il faut une mobilisation de l'ensemble de l'Europe. Une mobilisation, bien sûr, de la Commission, de moyens financiers. Et avant toute chose, puisque nous avons eu cette difficulté distinguer entre l'attention et l'harmonie. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'appeler l'attention pour nos collègues romains, à la fois sur la nécessité de mieux travailler la réalisation des pratiques, parce que les plus rares et plus vulnérables, les enfants, notamment, ce qu'on a vu voir, nous avançons très rapidement dans le domaine, mais c'est plus simple. Le plus difficile, c'est l'aspect social, c'est la scolarisation, c'est le logement, c'est la santé, c'est la formation professionnelle. Et là-dessus, nous avons aujourd'hui, je crois, vraiment franchi une étape, vraiment priorisé. Nous avons senti que nous avons vraiment
la volonté politique d'avancer. Ils ont en liaison avec leur propre collectivité locale et nous attendons avec beaucoup d'intérêt leur premier plan de travail. J'ai dit notre disponibilité depuis longtemps et nous l'avons redit avec Eric aujourd'hui. La France est prête, nous comprenons à quel point c'est difficile, nous avons nous aussi des difficultés d'insertion sociale en France même. Donc nos équipes au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, sont à disposition des villes, des régions et aussi de l'État roumain pour donner un coup de main dans la confection de ces plans qui touchent à la scolarité, à l'insertion, à la formation professionnelle, au logement. Ensuite, dès que nous aurons ce plan, il est convenu avec nos collègues, mais aussi avec le Premier ministre roumain, que Valentin Mocanu et moi-même, nous irons plaider ce plan à Bruxelles, ensemble. La commission doit se mobiliser, non pas seulement en faisant des commentaires, mais dans les actions. Des lignes budgétaires sont disponibles sur les fonds de cohésion sociale, sur les fonds régionaux, mais aussi la commissaire Reding, vice-présidente de la commission, a dit hier qu'elle souhaitait mobiliser des fonds en direction du traitement à l'échelle européenne de la communauté Rome. Et je crois que ce travail pilote que la France et la Roumanie vont faire ensemble est de nature aussi à susciter une vraie mobilisation de tous les Européens pour régler un problème qui concerne quand même 12 millions de personnes. Il est insupportable que la région du monde qui soit la plus développée aujourd'hui, le tiers du PIB de la planète, laisse perdurer en son sein un véritable quart-monde. La solution n'est pas des camps de fortune et la mendicité ou des enfants utilisés pour des activités délictueuses. La solution, c'est la scolarisation, c'est la formation professionnelle, c'est l'emploi. Et je suis heureux de voir que nous allons pouvoir travailler utilement à cela. C'est ça qui est essentiel. L'argent européen est disponible. La commission où nous étions, Eric et moi, la semaine dernière, nous a dit que l'argent était disponible. Eh bien, nous allons le mobiliser et nous allons avancer. Je suis heureux qu'aujourd'hui nous ayons franchi cette étape parce que c'était ce que nous souhaitions. La feuille de route franco-roumaine, qui est sur la table depuis le mois de février dernier, dit essentiellement cela. Coopération en matière de sécurité d'un côté, mais surtout coopération en matière sociale, d'intégration de cette population. Voilà, je pense que nous n'avons pas perdu notre temps et s'il a fallu les polémiques, des choses désagréables pour tout le monde. Moi, franchement, comme citoyen, je n'ai pas aimé la façon dont notre pays a été traité par des commentaires tout à fait caricaturaux et déplacés. Mais au moins, vous savez, c'est comme dans la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité sera exécuté. Nous avons été, nous, Français, et je m'enorgueillis de cela, les premiers à dire en Europe, il y a un problème qui touche des millions de personnes. Nous l'avons soulevé à plusieurs reprises, sous présidence française. J'étais le seul ministre européen français des affaires européennes présent à Cordoue pendant le sommet sur l'Europe. Nous l'avons resoulevé au Conseil européen. Je suis heureux de voir aujourd'hui que cette idée est là. Et à toute chose, malheur est bon. Aujourd'hui, nous avons une mobilisation des parlementaires européens, c'est bien, même si ce n'est pas une bonne résolution, tout le monde est mobilisé, les États, la Commission, et nous avons un accord entre la France et la Roumanie, voilà qui devrait nous permettre enfin de prendre à bras le corps le vrai sujet, qui n'est pas les camps de fortune et la mendicité, qui est la question de fond, c'est-à-dire la précarité et la pauvreté, et donc le traitement de cette communauté. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame la ministre, je demande d'abord chez le sponsor. Pas de bien, passe aux questions et réponses.
Vous avez raison, mademoiselle, le dossier Schengen n'est pas lié à la question du traitement des robes. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des documents européens de préadhésion ou d'adhésion, c'est d'ailleurs l'un des problèmes. La question robe n'est liée à rien du tout. Donc, effectivement, il n'y a pas de lien juridique entre les deux. La question est en effet une question liée à d'autres choses, notamment le mécanisme de contrôle, de façon au moins implicite avec le mécanisme de contrôle et de vérification. Cette question est à l'agenda du Conseil d'affaires générales de lundi à Bruxelles, où je représenterai la France. Je préfère ne pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Merci.
Care spune așa că încă o pregătire în comune unde sunt de la 5.000 de locuitori în jur, comunale sunt tot trebuie să se asigure la marginea ei spații pentru curățile normale. Sunteți că aceste tabele pe care le-ați desfințat dumneavoastră acolo, în considerare ilegale, că până și această legislație este
C'est assez simple, madame. La loi de Louis Besson demande effectivement aux communes de 5000 habitants de prévoir une aire pour les gens du voyage. Et cette loi est respectée, son taux de respect, si je peux dire, s'accroît très rapidement. Nous sommes aujourd'hui autour de 65%. Par ailleurs, beaucoup de communes en France de 5000 habitants recherchent maintenant des plans de développement départemental et travaillent avec d'autres communes. Mais la loi dit aussi que nul ne peut s'installer sur un terrain privé ou sur un terrain public sans autorisation. Et heureusement, dans chacune de nos communes, nous avons des plans d'urbanisme, nous avons des règles du jeu. On ne s'installe pas en France sur un marché, on n'utilise pas une salle communale sans autorisation du maire. Ce n'est pas parce qu'on est 100, 200 ou 300 que l'on peut impunément entrer sur un terrain privé ou public. Et ce qu'a demandé le président de la République cet été, il a demandé à notre collègue ministre de l'Intérieur qu'il y ait un plan de démantèlement systématique de tous les camps illégaux. Il n'a pas visé spécialement les Roumains en situation irrégulière ou les Roms. Il a visé tous les camps, en situation illégale. Et j'ai dit à nos collègues ministres aujourd'hui qu'on ne s'est pas intéressé ou interrogé sur l'identité ou la nationalité des personnes qui vivaient dans ces camps. Dans un certain nombre de ces camps, on a trouvé des Français. Et bien évidemment, ils sont restés sur le sol français. On a retrouvé des étrangers non communautaires. Ils ont été reconduits dans leur pays d'origine. Et on a trouvé des ressortissants communautaires, roumains, bulgares ou parfois quelques autres nationalités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu un plan qui visait spécifiquement les Roms, entre guillemets. C'est la législation française dans son ensemble, le droit communautaire dans son ensemble, qui ont été appliqués. Il n'y a pas eu de législation d'exception, il n'y a pas eu de ciblage, entre guillemets, spécifique de ce que vous appelez les Roms. Voilà. Donc la France a appliqué scrupuleusement le droit communautaire, la France a appliqué scrupuleusement la loi française, et je mets quiconque au défi d'apporter le moindre élément qui donne à penser que la France n'a pas respecté le droit communautaire ou sa législation. Et je veux dire notamment que nous n'avons procédé à aucune expulsion collective. Les démantèlements de camps se font en France avec l'autorisation du juge. Seul le juge peut donner l'autorisation de démanteler un camp. Et ensuite, tous les départs, qu'ils soient volontaires ou forcés, se font aussi sous le contrôle du juge. Et donc la décision est chaque fois individuelle. Il n'y a pas de décision collective de retour forcé ou de retour volontaire vers le pays d'origine. Seuls les vols, les avions peuvent être collectif. Il peut y avoir des personnes qui montent à plusieurs ou à plusieurs dizaines dans un avion collectif pour un retour, par exemple à Bucarest. On imagine mal qu'on dise que c'est une personne par avion. Donc ça c'est collectif. Tout le reste c'est une somme de décisions individuelles.
Est-ce que je peux ajouter un mot sur ce sujet? Je voudrais dire que dans la suite de ce que vient d'exposer le ministre Éric Besson, qu'aucun gouvernement européen n'a critiqué la France sur l'application du droit. Aucun gouvernement européen. Tout simplement parce que le droit, il est le même dans les 27 pays. Il y a eu deux protestations de deux ministres isolés qui ont d'ailleurs été contredits par le reste de leur gouvernement, mais pour le reste, ce qui a été appliqué, c'est rigoureusement la même législation dans chacun des pays. J'ajoute, et je termine sur ce point, que les décisions judiciaires de démantèlement des camps qui ont été décidées par le juge en France ont été à la demande de municipalités de droite et de municipalités de gauche. Ce qui doit permettre de relativiser un certain nombre de comportements notamment au Parlement européen aujourd'hui, moi je note que les mêmes qui demandaient en France à la justice le démantèlement de camps illégaux sont ceux qui aujourd'hui se sont conclus à voter des résolutions condamnant ou faisant mine de condamner la France. Tout ça est bien regrettable et montre à quel point la bulle d'hypocrisie autour de cette affaire a grandi au fil des années, faute d'une vraie stratégie européenne pour s'occuper de ces populations.
Ma réaction, je l'ai déjà dite en milieu d'après-midi, je ne l'ai pas caché au gouvernement roumain, qui le savait. La France poursuivra les reconduites d'étrangers en situation irrégulière présents sur son sol vers leur pays d'origine. Pas spécifiquement les Roumains, mais tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Nous respectons le droit communautaire, nous respectons la loi française, et je rappelle que lorsque la France reconduit en Roumanie, elle le fait dans une démocratie, à l'intérieur de l'Union européenne, et dans un pays qui, même s'il connaît des difficultés économiques liées à la crise, comme beaucoup de pays à travers le monde, est loin d'être l'un des pays les plus pauvres du monde. Si nous suspendions, je dis tout de suite que ça n'est pas un millième de seconde envisagé, mais en réflexion intellectuelle, si nous suspendions vers la Roumanie, mais quels seraient les arguments pour ne pas suspendre vers un certain nombre de pays d'Afrique d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Amérique latine, dont les conditions économiques et sociales sont bien plus difficiles que celles que connaît la Roumanie. Autant, comme nous l'avons envisagé aujourd'hui, travailler main dans la main pour des plans d'intégration, d'insertion de ces populations en Roumanie. Autant aller ensemble, comme vont le faire nos deux ministres, plaider auprès de la Commission pour un plan de mobilisation, oui, mais la non-application du droit communautaire et de la loi française sur le sol français n'est pas envisagée.
Que des députés européens ne devraient pas réécrire unilatéralement dans des résolutions des textes de loi européens. La directive européenne dont nous parlons, comme l'a dit tout à l'heure Yves Besson, encadre le séjour à 3 mois, pas à 30 ans. Si l'on écoute ce que disent ces parlementaires, la directive de 2004 n'a plus d'objet. Et donc à partir de ce moment-là, n'importe qui, quelle que soit sa situation légale, peut s'installer n'importe où à la charge du pays d'accueil. Ça, c'est une réécriture unilatérale de la loi européenne qui est extrêmement problématique pour la cohésion de l'Union, qui n'a pas été ratifiée par les peuples, qui n'est pas conforme au droit européen, et je suis tout à fait surpris. Et c'est grave d'ailleurs, pardonnez-moi de vous le dire aussi franchement, c'est problématique pour le sérieux même du travail du Parlement européen que par le biais d'une résolution, les mêmes parlementaires en viennent à contredire et à réécrire quelque chose qui est un texte qui, normalement, fait l'objet d'une codécision et de l'accord de l'ensemble des institutions de l'Union, c'est-à-dire des États, du Parlement et de la Commission. Tout ça est tout à fait problématique sur le fonctionnement du Parlement européen. Je le dis comme je le pense, parce que le traité de Lisbonne a donné d'importants pouvoirs au Parlement européen, qui est un acteur majeur dans la confection de la loi. Il ne faudrait pas que par le biais de résolutions votées dans la chaleur du moment et pour des raisons idéologiques, et où l'on trouve mêlées les voix de l'extrême droite française, de gauche ou d'extrême gauche, d'écologistes, de droite et de gauche venant de différents pays, on arrive à réécrire des textes fondamentaux qui font le vivre ensemble à l'intérieur de l'Union. Non, les lois sur l'immigration et le séjour ne se décrètent pas dans des résolutions de ce genre. C'est un petit peu problématique pour la suite du travail parlementaire.
Întrucât am declarat că polemica franco-română e sterilă, nu citim rezoluția adoptată în Parlamentul European ca pe o mână de ajutor dată României. Avem treabă, avem niște obiective de atins, trebuie să ne mobilizăm mai mult și o vom face. În rest, mă abțin de la comentarii, este un vot liber într-o instituție a Uniunii Europene, extrem de importantă, bineînțeles, așa cum amintea Pierre Lelouch, importanța ei a crescut prin ratificarea Tratatului de la Lisabona. Este un forum în care democrațiile din cele 27 de state membre își proiectează propriile aspirații, dar sunt de acord că polemicile ideologice și instrumentalizarea ideologică a problematicii roma nu trebuie încurajată. Vous n'avez pas de traduction simultanée. Ah non, écoutez, j'ai donné une interview pour France 24. Le propos aujourd'hui, c'est bon.
Cela dit, ceux qui avaient la traduction ont été intéressés d'entendre le ministre des Affaires étrangères dire qu'il ne considère pas que cette résolution soit un, je cite, coup de main donné à la Roumanie. Même s'il a salué, je le dis aux journalistes français qui n'avaient pas d'écouteurs, par ailleurs, l'importance du Parlement européen et qu'il a dit qu'il ne voulait pas faire de commentaires particuliers. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Despre alte matematică care sunt preparate în aceleași condiții și reținem mai cum era că monitorizăm și din preparatorii și de bani și despre colegi privind alte matematică pe cât rompe lumea română. Și aș ultima întrebare, cum vor să asigurată cetățenii repatriați în România sau mai putem nu se întorc pe teritoriul francez?
Alors, il faut peut-être bien s'entendre sur ce qu'on appelle les retours volontaires. Lorsqu'il y a interpellation et que, sous le contrôle de la justice, il est vérifié que vous êtes en situation irrégulière, vous avez le choix entre ce qu'on appelle un retour volontaire, mais ce n'est pas un retour avec plaisir. C'est un retour volontaire, ça veut dire que vous acceptez volontairement d'acter le fait que vous êtes en situation irrégulière et que vous signez une convention par laquelle vous acceptez de retourner, de monter volontairement dans un avion qui va vous ramener dans un pays, et dans votre pays, et la France se singularise par le fait qu'elle est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, à accorder une aide au retour volontaire humanitaire aux ressortissants européens lorsqu'ils sont démunis, c'est-à-dire lorsqu'ils ne disposent pas de ressources. Donc, lorsque vous dites, est-ce qu'on peut vraiment parler de retour volontaire, si vous voulez dire que la plupart d'entre eux auraient préféré rester en France, vous avez entièrement raison. Et ça veut dire que dans la procédure, ils ont choisi pour plus de 80 ou 85% d'entre eux d'opter pour le retour volontaire plutôt que pour le retour forcé. Vous m'interrogez par ailleurs sur les statistiques. Elles sont relativement simples. La France reconduit dans leur pays d'origine chaque année à peu près 30 000, un peu moins, 28 000, 29 000 ressortissants étrangers. Parmi ces ressortissants étrangers reconduits, les Roumains et les Bulgares représentent à peu près le tiers, c'est-à-dire à peu près 10 000. Ce qui vous montre au passage que ça n'est pas quelque chose de récent. Cette question n'est pas née au mois d'août. Elle est quelque chose de récurrent. Pourquoi un certain nombre de ressortissants étrangers, je ne veux pas répondre seulement pour les Roumains, essaient de revenir en France? Vous avez les réponses comme moi, mais peut-être que notre système de protection sociale est particulièrement avantageux, notamment à l'égard des étrangers en situation irrégulière, parce que avec l'accès à l'aide médicale d'État, il est mieux pour être soigné, je vais le dire simplement, d'être en France que dans d'autres pays si on est en situation irrégulière. Deuxièmement, que contrairement aux bêtises qu'on a pu entendre ces dernières semaines en France, comme parfois en Europe, le droit français relatif aux étrangers en situation irrégulière est particulièrement protecteur des libertés publiques. Troisièmement, je l'ai dit juste avant, nous avons cette spécificité de l'aide au retour volontaire. Alors, bien évidemment, un certain nombre de ressortissants étrangers abusent de cette aide. C'est-à-dire que certains retournent dans leur pays, par exemple, mais pas seulement la Roumanie, et reviennent en France pour récupérer le pécule. Et j'ai noté que le ministre des Affaires étrangères à midi, le Premier ministre roumain cet après-midi, nous a dit à Pierre Lelouch et moi-même qu'il considérait que cette aide au retour volontaire humanitaire n'était pas forcément une bonne idée et que probablement nous ferions mieux d'utiliser les mêmes sommes à des programmes d'insertion ou de réinsertion locale. c'est une analyse que nous n'allons pas oublier et que nous, dont nous rendrons compte au président de la République et au Premier ministre et qui pourrait nous amener, je ne suis pas certain, je n'en prends pas ici l'engagement, mais qui pourrait nous amener à retravailler sur la façon dont nous coopérons. Je termine en disant que nous sommes conscients de ces abus que nous avons créés, non pas cet été, non pas dans l'urgence, mais il était programmé, nous y travaillons depuis 2 ans, un fichier biométrique informatisé, pour ceux qui connaissent le jargon français dénommé OSCAR, qui va être opérationnel le 1er octobre et qui va permettre à partir d'empreintes digitales d'éviter qu'on puisse régulièrement se voir doté de cette aide au retour volontaire humanitaire. Ils ne pourront pas prétendre à l'aide au retour volontaire. C'est tout.
Blaga? Eu aș dori să fac doar niște completări la răspunsul colegilor mei francez, la răspunsul colegilor mei francez, cu care de altfel astăzi am avut o întâlnire extrem de articulată, cred, și de corectă, și în care sigur că noi am ridicat și colegii francezi au fost de acord importanța pe noi a respectării strict a principiilor rigurilor de recirculație. În același timp, în situația în care cetățenii români sau cetățeni au unui stat pe teritoriul altui stat din Uniunea Europeană comit infracțiuni și aș vrea să explicăm puțin cum stau lucrurile cu returnările, atunci că există tratate de readmisie între state. În momentul în care un cetățean român a comis o infracțiune pe teritoriul francez, el este expulzat. Dar și în acest caz, noi ne bucurăm să vedem că partea franceză respectă practic tot ceea ce înseamnă garanție procedurală. Conform directivei 38/2004 a Comisiei Europene, cetățeanul care urmează a fi chiar cel expulzat, urmează a fi notificat în scris, trebuie să îi se prezinte clar instanța la care poate face recurs, termenul în care poate face recurs și, în general, decât în cazuri extreme, nu se poate proceda la expulzări la o perioadă mai mică de 30 de zile din momentul în care s-a făcut notificare. Avem, pe de altă parte, situația returnărilor. Returnări voluntare, în conform legislației franceze și returnările propriu-zise în cazul cetățenilor, în cazul decizii administrative. Au stat mai mult de 3 luni pe teritoriul francez fără a avea mijloace de subsistență, nu au documentele de evidență a populației, care sunt și documente de călătorie, care de identitate este nu numai document de identitate, este și de călătorie și atunci sigur că ei sunt returnați pe teritoriul românesc. Numai că datele comparative ale pe aceeași perioadă, 2009 cu 2010, arată că nu sunt fluctuații foarte mari. Și se vedeau exact datele pe care noi le avem de la Poliția de Frontieră. În perioada 1 ianuarie 5 septembrie, deci discutăm de perioade echivalente, în acest an au fost trimiși în România 4.174 de cetățeni români, în timp ce anul trecut, în aceeași perioadă, 3.787. Deci, datele sunt comparative, undeva spre 10% mai mulți în acești ani. Din acești ani, 925 au fost returnați ca în cursul anului trecut, ca urmare a unor proceduri judiciare determinate de săvârșirea unor fapte penale, pe când în acest an 544 au fost returnați ca urmare a unor proceduri judiciare, deci au săvârșit fapte penale în Franța, dintre care anul trecut un minor, anul acesta 10 minori. Iar restul, 3249 anul trecut și 3243, iată cât de apropiate sunt cifrele anul acesta, ca urmare a unor proceduri administrative sau ca urmare a unor repatrieri voluntare. Deci nu a existat niciun caz în care România să refuze un caz de expulzare, nu numai din Franța. E adevărat că cetățenii returnați din Franța reprezintă o treime din totalul returnărilor pe care pe cetățenii români pe teritoriul european din spațiul Uniunii Europene.
Domnul ministru Botiș, dorește să...
Vă mulțumesc, domnul ministru. Doamnelor și domnilor, astăzi a avut loc o întâlnire și la Ministerul Muncii între delegația franceză și reprezentanții Ministerului Muncii. Am convenit asupra unui program comun, cu siguranță în prima etapă susținut de Ministerul Muncii, pentru că noi suntem beneficiari direcți în etapele de reîntoarcere a cetățenilor români din Franța. Ideea noastră este de a merge pe două paliere. Pe primul palier, de a stimula proiecte pentru ONG-uri și pentru administrațiile locale, și al doilea palier este legat de finanțările din fondurile europene, de FSE, și în speță vorbim de POSDRU, de Programul Operațional Sectorat Dezvoltarea Resurselor Umane, și dacă doriți să mergem mai departe, legat de incluziune socială, acta 6. Vom avea, prin domnul ministru secretar de stat, domnul Mocanu, întâlniri cu partenerii francezi și vom încerca să identificăm fiecare caz în parte, astfel încât să intervenim la nivelul administrației locale și să targetăm nevoile sau să identificăm, în primul rând, nevoile celor care se întorc și să căutăm soluții de rezolvare la nivel local a acestor probleme. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, domnule secretar de stat, o ultima intervenție, după care vă propun să încheiem această conferință comună de presă.
Vă mulțumesc și eu foarte mult, voi încerca să fiu cât se poate de scurt. Într-adevăr, de când am preluat această sarcină, am început să fac analize asupra modului în care programele de inserție socială s-au derulat până acum. S-a afirmat deja aici că în cadrul discuțiilor și de astăzi, dar și cele anterioare, am discutat foarte deschis despre ceea ce a funcționat mai puțin bine în cadrul acestor programe și ceea ce putem îmbunătăți. Cuvântul cheie în toată această, în tot acest pachet de măsuri trebuie să fie coerență și coordonare. Coordonare atât în cadrul programelor derulate în România, coordonare în relația bilaterală dintre Franța și România și coordonare la nivel tripartit, incluzând aici și Uniunea Europeană, Comisia Europeană, de fapt. Cred că acesta este răspunsul pozitiv pe care îl putem da, pentru că a continua să facem ping-pong cu acești oameni nu este soluția pe care ne-o propunem și pe care, de altfel, am și evitat-o în cadrul discuțiilor de astăzi. Mai mult decât atât, coordonare înseamnă inclusiv coordonarea unor proiecte care sunt pe linii diferite de finanțare, astfel încât să dezvoltăm proiecte integrate care să rezolve de la problema locuinței, problema educației, problema formării profesionale și problema locurilor de muncă în zonele unde se găsesc aceste comunități. Avem nevoie de colaborarea autorităților locale, direct colaborarea autorităților locale, pentru că de acolo trebuie să vină ideile și soluțiile de proiecte. Putem să sprijinim aceste soluții de proiecte pentru că suntem conștienți că la nivel local, într-o primărie cu 7 angajați, nu există capacitatea și expertiza de a derula un proiect de la faza de a scrie proiectul, depășirea barierelor birocratice și implementarea acestui tip de măsuri. De aceea constituim o unitate care să acorde sprijin logistic celor care dezvoltă idei de proiecte. În același timp, inclusiv în discuția de azi care a avut loc cu prefecturile, am solicitat ca până la data de 20 septembrie să vină primele idei de proiecte din partea autorităților locale, astfel încât să demarăm un asemenea proces într-adevăr de lungă durată de inserție socială a categoriilor defavorizate. Vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc. Mai preluăm două întrebări. Vă rog.
Bună ziua. Aveți prăzimat. Eu sunt președinte al Comitetului European al Rolilor Distinitării. Dați-vă liniște. În 2002, în 2001, a fost adoptată tradiția pentru bunătățirea situației românilor. Știm foarte bine că până în momentul acesta, această tradiție nu a funcționat în felul care trebuia. Întrebarea ar fi, dacă strategia pe care s-a făcut promisiunea în discursul domnului Cerulerus, că va fi adoptată o nouă strategie, va fi adoptată până în la sfârșitul anului, crede că s-a fost prezentată să fie bugetată această strategie de bunătățirea situației românilor? Și pentru romii care au fost expulzați din România, când m-am scris la Antamă Ciudat, când m-am datat din partea Mendeșulației, o domnul că fac un cadou domnului Pierleru și domnului Gerson, demonstrând că pe lângă impresiile care le-au fost ei în Franța, ei știu să facă și lucruri frumoase.
Vă mulțumesc că... De acord.
Sunt niște pigantini miniaturi făcute de meșterii lor, care nu au mai putut să le vândă în Franța, dar să ne au însăcinat că nu este chiar ceva în ea. Prima întrebare este așa. Franța este printre puține țări care nu le cunoaște provinialitatea etnică. Care cunoaște pe data de Franța, minorități etnice din Franța, inclusiv romii, pentru că romii care au fost predominați și voluntari, dacă așa ne convine să sunt, că suntem la misiunile de externe, să fim diplomați. Dacă să vă vrem doar ce s-ar putea să aibă nevoie de recunoaștere, bună de ei. Deci dacă Franța va recunoaște vreodată, minorități etnice de acolo. Doi, întotdeauna țările din vest au încercat să dea lecții românii, pur și simplu vede romii. Ce fac țările din vest, mă refer la Franța, cu romii de acolo. Dacă au o strategie sau dacă vor avea o strategie, pentru România sunt direct în asociație și asumim sau mare lovenit, dar deci nu este în educație și o piață a muncii. Una din mare probleme în sensul este educația și munca. O soluție concretă pe care organizația pe care o conduc a demarat-o este în relația cu sindicatele și patronatele, măsuri afirmative pe piața muncii. Vrem susține ca Ministerul Muncii, ca Ministerul Administrației, o asemenea măsură concret despre strategii și din 2001 nu au fost niciodată bugetate. Mulțumesc!
S-a vorbit tot timpul despre fonduri europene suplimentare pe lângă cele deja alocate integrării și protejării grupurilor vulnerabile din Europa, deci mai sunt. Așteptăm o acțiune proactivă și din partea ONG-urilor. Facem poate mai puține seminarii cu fursecuri și mai multe proiecte pe plan local la Bărbulești sau la Petroșani sau unde se află comunitățile noastre pe teren și fără îndoială că strategia aceasta va fi mult mai eficientă dacă împreună reușim să facem ceva pe teren, nu în seminarii și nu în declarații la televiziune. Nu știu, în rest, domnul ministru...
Da, un răspuns foarte concret la prima întrebare. În primul rând, trebuie să ne încadrăm în anvelopa socială din anul acesta, dacă vorbim de protecție socială. Și, în al doilea rând, am convenit astăzi în cursul discuțiilor că atât noi cât și partea franceză vom prezenta în fața Comisiei Europene un program în vederea susținerii proiectelor pe care le promovăm pentru rom, în special. În ceea ce privește măsurile active, nu afirmative, nu? Active, afirmative ca și... Ok. Eu, în primul rând, cred că actele 1 și 2 sunt foarte importante de postru și vorbim de acta 2 de învățare pe tot parcursul vieții și o integrare a persoanelor de etnie romă și, de asemenea, cred că avem actele privind adaptabilitatea și mobilitatea forței de muncă și în cadrul acestor acte există parteneriate, atât cu sindicatele cât și cu patronatele. Deci există această posibilitate și cu siguranță ține de prioritatea mea ca ministru să stimulez și să încurajez crearea acestor parteneriate și accesarea de fonduri europene.
Bonsoir. Très vite, et puis si vous le voulez bien, ce sera vraiment nous notre dernière intervention. Je voudrais, monsieur, être très clair. Quand je dis retour volontaire, c'est pas une façon de chercher à être diplomate. Ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai répondu tout à l'heure à votre collègue qui a un t-shirt marqué Fabi must go on, et je me demande depuis tout à l'heure qui est Fabi. Elle nous le dira peut-être tout à l'heure. Les retours, lorsque vous êtes en situation irrégulière, vous avez en France deux options. Le retour volontaire, et on vous donne de l'argent pour rentrer dans votre pays, ou le retour forcé. Donc il n'y a pas, ce n'est pas une question de vocabulaire ou de diplomatie. Je vous explique ce que sont les procédures. Sur le deuxième point, je vais être très clair. Oui, la France ne reconnaît pas le concept, la notion de minorité ethnique. Nous n'avons pas de leçon à donner aux autres. Chacun fait comme il veut dans son pays. Mais en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, il n'y a pas de reconnaissance de communauté, il n'y a pas de minorité ethnique. En revanche, nous avons à l'évidence des Français d'origine rome, entre guillemets. Comme il n'y a pas de statistiques ethniques, personne ne peut en donner le chiffre de façon certaine. Mais un certain nombre de statisticiens ou de démographes évaluent ces personnes à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 400 ou 450 000. Et lorsque nous menons des actions d'intégration, nous ne le faisons pas sur une base technique, nous le faisons sur une base géographique et sociale. Nous aidons des quartiers, nous aidons des populations socialement défavorisées, mais jamais sur une base ethnique. C'est bien pourquoi je vous disais aussi sur un autre terrain que lorsque nous démantelons un camp, nous ne nous préoccupons pas au départ de la nationalité de celles et ceux qui se trouvent dans ce camp. Je viens de répondre à cette question.
C'est une question intéressante puisque nous avons eu cette conversation à Bruxelles l'autre jour. La France est considérée comme un pays riche. Donc nous avons très peu de fonds structurels européens. Et l'essentiel de cet argent va à nos départements d'outre-mer. Donc, en métropole, il y a peu de fonds de cohésion sociale et peu de fonds régionaux. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est pédagogiquement important. Alors, à la question, est-ce qu'il y a de l'argent européen en direction des citoyens français d'origine rome, la réponse est non, pour une raison simple, c'est que l'aide sociale française, elle n'est pas ciblée en fonction des minorités, parce que nous ne connaissons pas de minorités. Donc, c'est pas qu'on va donner de l'argent aux Chinois, aux je ne sais pas quoi, aux musulmans, aux juifs. La France ne fonctionne pas comme ça. Quand il y a une aide sociale, elle va aux handicapés, aux défavorisés, aux chômeurs, aux personnes âgées. Donc je suis incapable de répondre à cette question. Et à la limite, elle est étrange sous l'angle français. Voilà.
Vă mulțumesc foarte mult, domnilor miniștri și doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută. Thank you.